Alors, on va changer un tout petit peu de sujet maintenant. Le sous-thème, c'était pratique sociale de la science, mais on y a mis plusieurs choses. Et en particulier, d'une certaine manière, va reboucler un tout petit peu sur un thème qui a été largement évoqué hier, qui était le green et la publication. Et finalement, on joint presque avec le thème que va nous présenter Antonin Delpech, un peu les questions qu'évoquait Bernard Rentier hier quand il se posait cette interrogation de est-ce que tous mes chercheurs publient effectivement en open access ou pas? Et comment peut-on essayer de regarder si effectivement ce qu'ils ont contribué à faire est bien déposé là où il devrait être déposé. Voilà, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et merci pour cette opportunité de pouvoir présenter notre projet devant cette assemblée. Donc, je vais vous présenter Dissémine, qui est un projet mené par une équipe de chercheurs et d'étudiants depuis maintenant un petit peu plus d'un an pour encourager l'accès ouvert aux publications. Donc, notre équipe, la voilà. Je vous la montre parce qu'elle est un peu atypique. On est des bénévoles, des amateurs, si vous voulez. On n'est pas des spécialistes de l'IST. Mais voilà, on est déjà dans le milieu de la recherche. On connaît les attentes des chercheurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je vais essayer de vous montrer comment on va pouvoir essayer de caresser les chercheurs dans le sens du poil pour essayer de les faire collaborer à l'accès ouvert. Donc, je vais commencer par vous présenter comment est-ce qu'on voit le problème de l'accès ouvert quand on est étudiant ou chercheur. Parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu dans ces journées. Ensuite, on va parler des archives ouvertes, de leurs avantages, mais aussi de leurs inconvénients. Et enfin, je vais vous présenter une démo de la plateforme qu'on a développée pour répondre aux problèmes qu'on aura soulevés dans les deux premières parties. Donc, je vais commencer par vous donner un peu d'imagination. Dans les 5 prochaines minutes, vous allez être un étudiant en informatique à l'École normale supérieure. Vous trouvez un pseudonyme idiot comme sur la slide précédente. Vous enlevez peut-être quelques cheveux blancs, enfin pardon, quelques années d'expérience. Et vous avez un projet de recherche, vous cherchez un article. Donc, est-ce que vous allez à la bibliothèque? Non, évidemment pas. Vous allez ouvrir votre navigateur. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça. D'accord? Alors, pas de panique, parce que vous êtes un chercheur surentraîné qui, dès son plus jeune âge, a été entraîné pour repérer des motifs très particuliers, mais pourtant incroyablement divers, dans des endroits les plus inattendus sur n'importe quelle page web, et ça en moins de 300 millisecondes après le chargement de la page. D'accord? Donc vous êtes vraiment, vraiment très bon. On vous a bien entraîné. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on est étudiant ou jeune chercheur, en informatique en tout cas, quand on veut avoir accès à un papier, on le trouve. Et bien souvent, on le trouve sans avoir à utiliser les abonnements souscrits par nos institutions. D'accord? Donc imaginez maintenant la surprise de votre jeune chercheur quand il découvre au détour d'une conversation que vous savez qui extorque vous savez combien au ministère pour payer des abonnements à des ressources auxquelles on a accès par d'autres sources. Par quel tour de passe-passe est-ce là possible? Alors évidemment, vous connaissez les réponses, vous les connaissez très bien. La culture de l'auto-archivage n'est pas aussi répandue dans beaucoup de domaines qu'en informatique. C'est aussi assez difficile d'avoir une vue globale sur la disponibilité des articles par d'autres sources, parce que ces sources sont éparpillées, peu structurées, et qu'on a du mal à remplir nos dépôts. Les publications se retrouvent souvent dans des réseaux sociaux ou sur des pages personnelles. Et enfin, même si on avait cette visibilité sur la disponibilité des articles dans une revue ou dans une autre, on aurait du mal à faire notre marché parmi les abonnements proposés par les maisons d'édition à cause des gros paquets d'abonnements qui sont vendus à coup près. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de répondre aux deux premiers points. On essaye de montrer aux chercheurs pourquoi c'est important de mettre en ligne leur publication et de le faire correctement. Et dans une certaine mesure, on pourrait aussi aider les négociateurs à estimer le besoin réel de ces abonnements auprès de la communauté qu'ils servent. Et la solution à ce problème de l'accessibilité et de l'archivage des publications mises en ligne par les chercheurs, vous la connaissez très bien, c'est les archives ouvertes dont on a entendu parler tout au long de ces journées. Donc les archives ouvertes, je vous refais le prospectus publicitaire, il permet un stockage pérenne des articles. Si le chercheur change d'institution, on n'obtiendra pas une erreur 404 en allant chercher l'article en question. Il a un formatage standard des métadonnées, ce qui va permettre de découvrir cet article plus facilement. Et enfin, l'indexation de l'article dans les moteurs de recherche est beaucoup plus propre. Seulement, voilà, on a vu hier dans l'exposé de Christine Hollendorf que les chercheurs n'étaient pas toujours très enthousiastes pour utiliser les dépôts qu'on mettait en place pour eux. Alors pourquoi ? On a des longs formulaires à remplir, avec parfois des délais de modération significatifs. Les chercheurs ne sont pas toujours certains d'avoir le droit de déposer dans ces dépôts. Ils sont aussi très méfiants vis-à-vis de l'utilisation de ces dépôts comme des vitrines bibliographiques pour promouvoir la position d'une institution dans un classement international ou pour les évaluer, eux, directement ou indirectement. Les incitations institutionnelles changent, sont parfois un peu inadaptées pour vraiment montrer aux chercheurs qu'il faut déposer dans ces dépôts. Et évidemment, on a l'attrait des pages personnelles ou des réseaux sociaux académiques dont on entendra parler dans la présentation suivante. Alors, notre solution à ces problèmes est assez simple. On veut permettre aux chercheurs de déposer leurs articles sans rentrer la moindre métadonnée. Donc, on fait le travail pour pré-remplir toutes les métadonnées qui sont nécessaires à un archivage pérenne des articles. Ensuite, on leur propose une analyse claire des politiques d'auto-archivage, parce que ces données sont déjà disponibles via le service Sherpa Romeo. Enfin, on crée une plateforme qui va être indépendante de leur employeur et qui va les mettre en confiance pour déposer leur article dans la mesure où ce dépôt ne sera utilisé que pour rendre l'article plus disponible et pas pour les évaluer, eux, en tant que machine à produire des articles. Et enfin, au niveau du problème des incitations, on leur propose une incitation très simple qui va être une mesure de l'accessibilité des papiers qu'ils ont écrits et en leur montrant à quel point ils peuvent progresser, à quel point ils peuvent augmenter la proportion d'articles disponibles dans leur bibliographie. Donc je vais maintenant passer à une démo de la plateforme qui va être un peu statique parce que je l'ai mise dans les slides, je n'étais pas sûr de pouvoir avoir accès à Internet sur l'ordinateur de la présentation. Donc, la plateforme ressemble à cela. Donc, le principe est assez simple. On va récupérer des données de plusieurs sources différentes. La première, c'est Crossref, le consortium de maisons d'édition, qui nous fournit la liste des articles publiés par un chercheur, qu'il soit disponible ou pas dans un dépôt. Ça, c'est très important. La deuxième source, ça va être les dépôts. Les dépôts individuels, mais aussi fédérés par des moteurs de recherche dédiés, qui s'appellent BASE ou CORE, qui permettent de fédérer tous ces dépôts et de les présenter sous une interface commune. La troisième source, ça va être Sherpa Romeo, qui nous permet d'analyser la politique d'auto-archivage des maisons d'édition. Et vous voyez en bas un petit diagramme dont on est assez fier. Les chiffres en question sont pour l'ensemble des utilisateurs qu'on a analysés pour l'instant sur notre plateforme, ce qui est assez peu puisqu'on n'a pas encore lancé le service officiellement. Donc le principe, c'est que chaque chercheur va avoir son petit diagramme de cette forme-là. Vous avez à l'intérieur le ratio des articles disponibles et indisponibles qui ont été écrits. D'accord ? Disponibles, c'est ceux qu'on peut accéder librement dans un dépôt. Ces articles disponibles sont divisés en deux catégories. La première, c'est celle des articles qui sont mis en ligne directement par la maison d'édition, en payant une APC ou pas. D'accord ? La deuxième, c'est celle du Green Open Access, qui est les articles mis en ligne par les auteurs eux-mêmes, en parallèle de la vente de l'article par les maisons d'édition. Et le plus intéressant est la partie indisponible, où on analyse les articles en fonction de la politique de droit d'archivage des maisons d'édition. D'accord ? Et donc on voit qu'on a une énorme zone bleu clair qui correspond aux articles qui ne sont pas déposés, d'après les sources qu'on a, mais qui pourraient l'être d'après la politique de la maison d'édition. Donc l'incitation qu'on donne aux chercheurs, elle est très simple. Il s'agit d'éliminer tout ce bleu clair, au moins. Souvent, dans la partie grise qui suit, il peut aussi y avoir des articles qu'on peut déposer. Et de repousser le jaune le plus loin possible. Voilà. Donc, voyons maintenant comment la plateforme fonctionne. Actuellement, la plateforme peut être utilisée par n'importe qui. C'est-à-dire que ce n'est pas un dépôt que vous allez installer dans votre institution uniquement pour vos chercheurs. Vous pouvez l'utiliser pour regarder les publications de n'importe qui. Donc, vous avez un petit bouton « Chercher un collègue ». Vous pouvez chercher un chercheur par son nom, ou si son nom est ambigu et qu'il a un profil ORCID, vous pouvez utiliser son identifiant ORCID pour identifier uniquement les publications rattachées à ce chercheur. ORCID a été mentionné plusieurs fois pendant ces journées. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment au point avec ce système, parce qu'il n'est pas si utilisé en France. C'est juste une sorte de, grande base de données qui attribue à chaque auteur qui l'utilise un identifiant unique qui permet de se débarrasser de ce problème d'ambiguïté des noms. Voilà. Donc, allons-y. Cherchons les publications de Peter Sewall. Donc, vous obtenez une liste de publications, et pour chaque publication, on analyse la disponibilité et la politique d'auto-archivage de la maison d'édition. Si le papier est disponible, vous pouvez directement le télécharger si vous voulez le consulter. Et s'il ne l'est pas, on vous propose de le mettre en ligne, parce que la plupart du temps, la politique le permet. Donc voilà la page d'un article individuel. Vous avez très clairement la politique de la maison d'édition détaillée pour les trois types de documents que vous pourriez vouloir déposer dans un dépôt. Le préprint modifié après retour des peer reviewers et la version telle qu'elle a été publiée. En face de chaque dépôt, vous avez un bouton pour mettre en ligne cette version en question. Donc, essayons ce bouton. Là, on vous demande de vous connecter. Vous n'avez pas besoin de créer un compte sur Dissémine parce qu'on ne veut pas que vous ayez à créer un énième mot de passe pour ça. Vous vous connectez directement en utilisant ORCID. Et bien souvent, vous avez déjà un compte ORCID parce que d'autres institutions vous demandaient d'utiliser ce service dans diverses activités que vous aurez à faire. Donc allons-y, on se connecte. Et voilà l'interface de dépôt. Vous pouvez choisir directement votre fichier à partir de votre ordinateur ou d'une URL. Et pour l'instant, nous ne supportons que le dépôt Zenodo, qui est le dépôt adossé à l'infrastructure OpenAir, dont on a déjà entendu parler ce matin. Mais notre idée est ensuite de permettre à l'utilisateur de choisir d'autres dépôts, par exemple Archive ou PubMed Central. Et voilà, vous avez juste à nous donner le PDF. Vous cliquez, si vous voulez, sur relire les métadonnées pour vérifier que l'abstract apparaît correctement et pour choisir éventuellement une licence différente. Et ensuite, vous cliquez sur dépôt. Et voilà, après quelques secondes, votre article est déposé, non pas dans Dissémine, parce qu'on est bien conscient que on n'est pas un dépôt, et en particulier pas stable et pas soutenu par une institution pérenne, donc on n'a pas la prétention de faire de l'archivage. Le papier est déposé directement dans Zenodo, qui lui est stocké au CERN, par des gens qui savent le faire. Et vous pouvez aller voir la page de l'article sur Zenodo. voilà, vous avez votre article qui est en ligne. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est proposer Dissémine pour les universités, c'est-à-dire vous nous donnez votre liste de chercheurs et on vous permet d'analyser la disponibilité des articles département par département pour pouvoir ensuite encourager les utilisateurs à mettre en ligne leurs papiers. Et ce qui est intéressant avec ce système, c'est que vous pouvez mettre en place des politiques pour l'open access qui ne vont pas favoriser votre petit dépôt institutionnel. D'accord ? Si les chercheurs utilisent déjà Archive, Archive est très bien référencé. Archive est soutenu par des centaines d'institutions dans le monde entier. Les articles qui sont déposés là-bas, ils sont visibles, ils sont répliqués à des centaines d'endroits dans le monde. Donc, les chercheurs qui utilisent déjà des dépôts bien indexés, inutile d'aller les forcer à dupliquer leurs articles dans votre propre dépôt, si votre objectif est l'accès ouvert. Et évidemment, donc, on veut développer des interfaces vers de nouveaux dépôts. Pour ça, il faut souvent discuter avec les dépôts en question, voir s'ils sont d'accord avec l'utilisation qu'on va faire de leur interface. Et voilà. Donc, nous sommes une association à but non lucratif. Nous n'avons que des bénévoles, aucun financement. Donc, on en cherche, évidemment. Notre budget est ridicule et tout petit par rapport au coût de développement de la plateforme qui a été assumé entièrement par nous à titre bénévole. La plateforme est ouverte à tous et gratuite, et elle le restera, évidemment. Donc vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître si vous pensez que l'outil pourrait être utile pour des chercheurs. Et le logiciel qui fait tourner la plateforme, c'est un logiciel libre que vous êtes absolument invité à copier, à modifier. Volez-nous nos idées. On a juste envie qu'elles soient implémentées. Et donc n'hésitez pas à adapter le système à votre sauce. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Merci Antonin pour cette présentation très dynamique et très claire. J'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Voilà, ici.
Félicitations. Comment est-ce que vous êtes pris pour récupérer des données par Crossref ?
Alors en fait, ils ont une API publique, c'est-à-dire une interface que tout le monde peut utiliser, qui est une interface de recherche. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'ensemble des métadonnées, des 70 millions de papiers qui sont indexés sur Crossref. On a juste une interface de recherche qui nous permet de chercher simplement le nom du chercheur et ensuite de filtrer pour obtenir juste les résultats qui sont pertinents.
Oui. Oui. Pourquoi avez-vous choisi le dépôt dans Zenodo plutôt que dans HAL ?
Alors, c'est une très bonne question. Le premier problème tout à fait technique, c'est un problème de métadonnées. C'est-à-dire que les métadonnées qu'on obtient depuis ces sources ne contiennent pas, par exemple, la classification thématique que HAL va exiger quand on va faire un dépôt dans HAL. Et donc, c'est des choses qu'il faut qu'on demande à l'utilisateur et qui vont complexifier le processus de dépôt. Ce n'est pas la seule métadonnée. Il y a aussi les affiliations aux institutions pour chaque auteur qui doivent être référencées via le référentiel de HAL pour les institutions. Et ils sont donc des métadonnées assez difficiles à obtenir, qu'on ne peut évidemment pas inférer. Donc on est en discussion avec HAL pour voir si on ne pourrait pas intégrer HAL dans notre système. C'est pour l'instant pas gagné. Et on est évidemment très demandeur.
D'autres commentaires, questions ? Non ? Tout le monde va adopter Dissémine dans les prochains jours ? Oui, sans aucun doute. Juste une petite remarque, hein, je crois que si on dépose, si on crée sa petite archive institutionnelle au niveau d'un établissement, je crois qu'il ne faut pas l'interdire, ça.
Oui.
L'objectif, c'est que le chercheur n'ait pas à se préoccuper ensuite du fait qu'il puisse être moissonné, qu'il puisse y avoir une interaction immédiate entre cette archive institutionnelle et HAL ou Archive ou d'autres choses.
Voilà, tout à fait. Mais il faut bien s'imaginer que quand vous êtes un chercheur affilié à, je ne sais pas, 5 institutions différentes, si ces 5 institutions se mettent à vous poser une politique pour l'open access où vous devez déposer dans leur dépôt selon des modalités différentes, vous, vous n'encouragez pas plus l'open access en déposant 5 fois le même article dans 5 dépôts.
On a le problème des UMR, hein, c'est sûr.
Voilà.
Il y a le risque, mais si, naturellement, vous demandez de déposer plusieurs fois. Nous, systématiquement, quand on est au niveau international, on dépose dans Archive, c'est la pratique de ma communauté. Et comme j'ai des collègues, les collègues, ils veulent qu'on dépose dans Archive. C'est international. Maintenant, HAL doit moissonner dans Archive. C'est-à-dire que HAL, en fait, si je dépose dans HAL, HAL l'envoie dans Archive, mais je ne comprends absolument pas pourquoi HAL ne va pas moissonner dans Archive. Voilà, c'est ça le problème. En tout cas, le principe, c'est qu'un chercheur, il dépose une fois où il veut dans la pratique de sa communauté.
Je suis complètement d'accord avec ça.
Merci, je ne veux pas trop allonger le débat, mais je pense que effectivement, ces métadonnées, c'est le gros problème. Et c'est quand même aussi la grande richesse de HAL, d'avoir des métadonnées extrêmement complètes, notamment sur les auteurs, ce qui fait aussi un peu sa difficulté à remplir le fichier quand on veut déposer un article. Donc, est-ce que c'est ce point, vos liens avec HAL actuellement, est-ce que c'est sur ce point que vous travaillez beaucoup? Parce que c'est ce qui fait quand même la richesse des métadonnées d'un dépôt.
Alors, les métadonnées, oui, elles sont très importantes. Par contre, les affiliations, par exemple, pour avoir accès à un article, elles ne sont clairement pas nécessaires. Et qu'il y ait une nécessité de garder trace des publications faites par un chercheur dans une institution donnée, soit, mais c'est un problème différent de l'accès ouvert, qui est un problème particulièrement simple. On veut juste que les articles soient disponibles. Et pour ça, si on a un DOI, un titre des auteurs, l'article sera très bien référencé dans n'importe quel moteur de recherche digne de ce nom, et c'est tout ce dont on a besoin pour augmenter la proportion d'articles disponibles et pouvoir enfin envisager d'arrêter les abonnements. Voilà, c'est notre objectif, je le dis clairement.
À entendre par HAL.
Une dernière question ? Oui ?
C'est pas une question, c'est un commentaire. Merci pour votre présentation. Je trouve votre démarche extrêmement pragmatique. Ça fait plaisir. Vous allez maintenant évidemment vous heurter à toutes les lourdeurs institutionnelles françaises, avec effectivement le dépôt dans HAL, etc., qui va clairement être un obstacle majeur à l'adoption de l'outil. Et voilà, j'espère que vous n'allez pas vous user trop vite.
Merci. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Zenodo, parce qu'à l'échelle européenne, c'est un dépôt qui a beaucoup de visibilité et qui pourra donc proposer la plateforme pour d'autres pays qui sont déjà beaucoup plus ouverts sur ce genre de thème.
Merci beaucoup, Antonin, et bon courage pour la suite.